Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, nous voici réunis
une fois de plus dans les arènes de l'écologie avec pour invité cette semaine Sarah Stahl qui va nous parler des soins apportés aux hérissons, les hérissons qui nous font un coucou hein, puisque c'est une sorte d'hibernation. Donc Sarah, que nous aurons en ligne quelques minutes, nous parlera des soins qu'il faut apporter à ces petits mammifères qui quelquefois sont un peu maltraités par notre vie quotidienne. Et puis ensuite, on aura Thierry Dupeux qui nous parlera aussi de la nature en ville. Alors sous un aspect un peu particulier, Thierry est architecte et urbaniste et c'est un activateur de la biodiversité en ville. Et il nous racontera comment il réussit à réintroduire des espèces sauvages, des espèces tout à fait intéressantes dans les ZAC, dans des HLM, dans des espaces qu'on aurait pu considérer totalement hostiles à la nature. Voilà, donc ça ce sera pour le développement, la grande thématique de l'émission. Mais avant, on a naturellement notre chronique de Ben qui va nous présenter la chronique de la semaine de Ben. Alors il m'a dit que c'était plutôt la semaine des mauvaises nouvelles. Alors je lui dis pas plus de 4 minutes. Hein. Donc voilà.
Mauvaises nouvelles. On démarre. Soyez attentifs. On est le 30 avril, on est bien d'accord ?
2025, oui.
Eh bien, certains d'entre vous n'étaient pas là, mais le 29 avril 1997, ce fut à Paris la signature de la Convention sur les armes chimiques. Et oui, il faut le savoir, c'est un anniversaire, et c'est un anniversaire qui est d'ailleurs qu'on a mis un peu sous le tapis. Peut-être parce qu'en ce moment, on est en train de ranimer un peu ces conventions ou de vouloir s'en défaire. Et le meilleur exemple, c'est ce qui se passe dans le domaine de la Convention d'Ottawa, c'est-à-dire la Convention sur les mines antipersonnelles, qui, elles aussi, ont été interdites en 1997, justement, notamment pour se débarrasser des mines antipersonnelles. Or, et là, c'est un deuxième scoop, et il est tout aussi tragique, c'est qu'il y a 4 pays au sein de l'Union européenne, 4, ouais, ou peut-être même 5, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, c'est-à-dire les 3 Baltes, la Pologne et la Finlande, ça fait 5 qui sont tous frontaliers de la Russie, qui ont décidé de se retirer de cette fameuse convention. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec l'environnement ? Ben, ça a beaucoup à voir avec l'environnement. Parce que d'ailleurs, dès qu'on parle des mines, et donc on parle des moyens de s'en débarrasser, on dit, dans le monde des experts, il s'agit de dépolluer les sols. Et c'est une affaire de dépollution. Donc ça, j'avais quand même envie de vous en parler, c'est deux. J'ai d'autres nouvelles inquiétantes pour toi, François, parce que je pense que c'est important quand même de le connaître. L'un des scoops, il vient notamment de l'Indus.
D'accord.
Eh ben oui, parce que le clash entre l'Inde et le Pakistan font que les Indiens ont décidé de remettre en question ce fameux traité de l'Indus, qui date de 1960, et à partir duquel on était quand même plus ou moins, on était rassurés, parce que même lorsque Indiens et Pakistanais étaient en train de se friter de puissance nucléaire, c'est pas rien, eh bien, le traité de l'Indus n'avait jamais été remis en question.
Ça voulait dire, il protège de quoi, ce traité de l'Indus ?
Alors, ce traité, il permet notamment de répartir les eaux pour les uns et pour les autres, les affluents de l'Indus eux-mêmes, et ça permet de...
Et là, la menace, c'est quoi ? C'est que l'Inde construise un barrage et...
L'Inde va bloquer, barrage ou pas barrage, l'Inde a décidé que elle, sous forme... en guise de représailles, elle va remettre en question la libre circulation, si tu veux, des eaux.
Voilà. Donc avec tout ce que ça peut vouloir dire comme conséquence sur l'agriculture, l'alimentation.
Voilà.
Et oui, bah, peut être source de guerre pour le coup. On a longtemps
exactement.
Annoncé la guerre de l'eau. Tu es en train de nous dire qu'elle peut arriver, quoi.
Oui, là, on a un exemple bon. Représentatif. Alors j'en ai encore une autre.
Oui, bah, ce sera la dernière.
Dernière.
Là, tu vas plomber l'ambiance. Hein.
Alors c'est le 24 avril, il y a donc quelques jours. Donald Trump a décidé d'autoriser l'exploitation minière des grands fonds marins dans les eaux internationales.
Non, mais pas celle de Finlande, quand même. C'est pas les mêmes mines.
Non. Là, je te parle des fonds marins. Et les fonds marins, c'est déjà un litige, pas seulement offshore en Antarctique ou en Arctique, mais c'est un peu partout. C'est la possibilité pour certains pays de pratiquer l'extraction minière des fonds marins.
Alors justement, ça c'est parce que les
nodules... Mine de rien. La tête du chapitre.
Voilà, les nodules métalliques, je me souviens, j'avais appris ça quand j'étais dans je ne sais plus trop quelle science et avenir ou je ne sais trop quoi.
Donc, polymétallique.
Peut-être. Donc, oui. Ça faisait plus ou moins 50 ans que c'était gelé.
C'est fini. Le gel, c'est bientôt terminé.
Alors, il y avait une convention là-dessus. Il y avait
On a essayé même d'avoir une institution des Nations Unies, l'Association internationale des fonds marins. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut que le concept de patrimoine commun de l'humanité soit accepté par tout le monde.
D'accord. Et donc là, Monsieur Trump a encore décidé de déchirer les papiers. Bon, je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais bon, et oui. Donc,
mais voilà, voilà pourquoi ma chronique cette semaine m'amène à des...
Bon, ben écoute, je ne sais pas si...
Réaction abyssale.
Voilà, je ne sais pas si la sortie d'hibernation du hérisson va pouvoir compenser tes mauvaises nouvelles. Écoutez, on va demander à Sarah Stahl si elle est en ligne de nous dire. Sarah, tu nous entends ? Vous nous entendez ?
Oui, je vous entends très bien.
Parfait. Alors... Donc, Sarah, je vous présente très vite. Donc, vous êtes, parmi toutes vos activités, vous êtes aussi soignante, hébergeuse de hérissons et capacitaire, je crois que c'est le nom technique de activité, pour pouvoir recueillir des hérissons et les soigner. Et je crois que vous faites ça à Orsay, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça, oui.
Alors, parlez-nous de la sortie du hérisson. Ça fait, on m'avait dit que c'était en fin d'avril qui sortait d'hibernation. Je me dis qu'il y a eu quelques beaux jours précédemment.
Alors, en fait, le hérisson, il est sorti d'hibernation déjà depuis un petit moment, parce que ce n'est pas une date précise. Le hérisson, en fait, il tient compte de la météo.
D'accord.
Donc, s'il fait bon avant, il sort d'hibernation avant fin avril. Mais effectivement, là, avec les températures qui ont bien monté, les derniers hérissons qui hibernaient encore sont maintenant réveillés. Donc là, maintenant, tout le monde est réveillé et tout le monde n'a plus qu'une idée, c'est faire des petits.
D'accord. Alors, il dormait depuis quand ?
Oui, c'est ça qui m'intéresse.
Alors, les hérissons, en fait, hibernent tout l'hiver. Ils hibernent parce qu'en hiver, en fait, il n'y a rien à manger pour eux. C'est un insectivore hein, qui se nourrit donc en grande partie d'insectes et de plein d'autres petits animaux. Et toute cette petite faune, cette microfaune, en fait, disparaît l'hiver. On voit très peu d'insectes l'hiver.
D'accord, mais quand vous dites l'hiver, c'est à partir du 21 novembre
décembre.
Alors, en fait, c'est pareil, tout va dépendre de la météo. Si on a un automne très doux, on va avoir des insectes qui vont rester beaucoup plus nombreux plus longtemps. Et par conséquent, le hérisson va rester réveillé plus longtemps. En fait, le hérisson, il suit sa nourriture. S'il n'y a plus de nourriture, sa seule façon de survivre, c'est de dormir.
D'accord.
C'est de se mettre en hibernation de façon à économiser ses forces pour se réveiller quand il y aura de nouveau des ressources en nourriture.
Un peu comme alors, nos ados, quoi.
Aussi, c'est aussi corrélé aux températures, parce que le hérisson, il a des piquants sur le dos, ça tient pas chaud, et donc sa stratégie de survie, c'est aussi de dormir quand il fait froid.
C'est intéressant, stratégie
de survie. Et justement, alors il va hiberner où? Parce que les ours, c'est dans les grottes.
Oui, alors le hérisson, lui, il va se construire un nid très, très, très épais, en fait, et qui est composé de brindilles, de feuilles mortes, d'herbes séchées. Et il va accumuler tout ça dans un coin bien abrité de la pluie, du vent et des intempéries. Et il va se faire, en fait, une espèce de cocon, de gros cocon, hein, donc ça fait un gros tas de feuilles et de branchages, de brindilles et d'herbes.
Et puis si c'est envahi par les ronces, c'est encore mieux, quoi.
Pardon ?
Je disais que si c'est des petits endroits où il y a beaucoup de ronces, c'est encore mieux, quoi, pour lui.
Oui, tout à fait. Ah, oui, ça adore les ronciers, ça adore les coins un peu sauvages, les fourrés, etc. C'est pour ça que, voilà, on trouve des hérissons là où il y a des haies. Hein, puisque en anglais, ça s'appelle hedgehog, le petit cochon de haie. Donc, ça indique bien que c'est des animaux de lisière, de friche, voilà, ils ont besoin de lieux un petit peu cachés, un petit peu inextricables pour se cacher et construire leur nid.
Alors justement, j'ai une question.
Ah bah Ben, vas-y.
Il a sûrement des ennemis. Il faut donc s'en protéger. Il fait comment ?
Alors, le hérisson, il a des ennemis naturels, qui sont essentiellement le blaireau et le hibou grand-duc, les renards et les chiens aussi. Et pour se protéger en fait de ces prédateurs, il a développé une stratégie qui est les piquants qu'il a sur le dos, qui sont en fait des poils qui au fil du temps se sont modifiés pour devenir très durs et pointus. Et c'est sa façon de se protéger. C'est pas un animal qui est agressif. Il court pas assez vite pour se planquer rapidement comme une musaraigne, dont il fait partie, c'est la même famille. Hein. Les musaraignes font partie de la même famille que les hérissons, des lointains cousins. Mais le hérisson, lui, il est plus pâteau, il ne peut pas se planquer dans un trou comme ça aussi vite, et donc il a dû développer cette armure de piquant pour se protéger de ses prédateurs.
Ok, donc cette année, ils sont allés se coucher vers quelle époque ? Noël ? Je crois qu'on a eu un automne assez doux, quoi.
On a eu un automne assez doux, effectivement. Après, ça dépend des coins de France. Hein. Il y a dans le sud de la France, ils dorment beaucoup moins que dans le nord de la France,
pourquoi,
bien entendu. Parce qu'il fait plus chaud dans le sud de la France. Mais... Et que donc, il y a davantage de ressources en nourriture plus longtemps que dans le nord, ou dans les régions où, en fait, il va très vite geler et où les insectes vont totalement disparaître pour l'hiver. Voilà, donc dans le sud de la France, ou même
est-ce qu'on a un signe qui peut nous faire...
Il va quasiment pas hiberner.
Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous faire savoir que, ça y est, les hérissons dorment, si on se promène en nature, il y a quelque chose, un indicateur comme ça qui peut nous révéler ?
Alors, parce que c'est des animaux qui sont très discrets, donc en fait, on en rencontre peu. Après, on constate ceux qu'on voyait dans nos jardins, et tout à coup, on ne les voit plus. Voilà. Ils ne viennent plus manger, on ne les voit plus, on ne les entend plus, c'est qu'ils se sont mis en hibernation.
D'accord.
Après, on a des facteurs qui varient. Hein. Les femelles se mettent en hibernation beaucoup plus tard que les mâles, donc, parce qu'elles finissent d'élever les petits, les portées tardives, et donc elles vont se mettre en hibernation peut-être que fin novembre, décembre, le temps.
Ah bon, donc c'est pareil chez les hérissons, c'est les femmes qui bossent, quoi.
Ah oui.
D'accord.
Et donc les mâles, eux, peuvent s'endormir des fois fin septembre, on a des mâles qui commencent à s'endormir.
Bon.
Ouais, parce que ça y est, ils ont fini leur saison de reproduction, donc voilà. Pour eux, c'est terminé. Alors, à contrario, ils vont se réveiller avant les femelles, puisqu'ils auront dormi avant.
D'accord.
Ils vont se réveiller avant les femelles, donc on va les voir réapparaître début mars. Ils vont commencer à faire des provisions, à remanger pour reprendre des forces, pour être d'attaque quand les femelles vont sortir d'hibernation.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, donc, voilà. Donc, il y a des modes de vie très particuliers, entre différences entre les femelles et les mâles. Moi, la question qui me turlupine, c'est est-ce qu'il y a beaucoup, puisque alors ils sont discrets, donc il y aurait des hérissons qu'on ne verrait pas, mais il y en a beaucoup ou il n'y en a pas beaucoup ?
Alors, malheureusement, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de hérissons. Et là, alors même si on n'a pas de chiffre exact, parce qu'on n'a pas encore fait de grandes études en France sur les populations de hérissons, pas d'études de comptage. Il y a une mission hérisson qui a été mise en route par la LPO, France Nature Environnement et le Muséum d'Histoire Naturelle. Mais c'est une étude de sciences participatives, donc qui repose sur les observations des Français, qui sont invités donc à signaler la présence d'un hérisson sur une carte où ils sont répertoriés. Mais donc c'est pas un comptage à proprement dit. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse drastique de la population ces 20 dernières années. Et ça, on ne peut plus le nier. Et c'est d'ailleurs pour ça que le hérisson est passé sur la liste des animaux menacés, ouais. Sur la liste de l'UICN. Mmh. Voilà, il est passé de préoccupation mineure à vulnérable.
Alors Ben nous demande pourquoi. Je pense que donc j'ai une petite réponse, mais je vous laisse développer, Sarah.
Oui. Sarah,
alors,
on veut tout savoir.
Pourquoi,
alors, pourquoi il y a moins de hérissons?
C'est à cause des humains, c'est à cause de toutes les infrastructures humaines qui ont un énorme impact sur ce petit animal. La première cause de mortalité du hérisson, ce sont les pesticides, donc qui empoisonnent leur nourriture, qui empoisonnent les insectes, et qui du coup, les hérissons n'ont plus rien à manger puisque les insectes ont été tués. Ou alors, ils sont empoisonnés parce qu'ils mangent des animaux, enfin des insectes et des petits mollusques qui ont été empoisonnés. Donc il y a les morts indirectes par famine et puis les morts directes par les poisons. Le tulimas fait des ravages, les rodenticides font des ravages aussi. Hein, tout ce qui est morora, régulièrement on nous amène des hérissons qui ont ingéré de la morora. Et qui meurent. Donc c'est vraiment c'est des victimes collatérales de tous ces poisons qui sont dispersés dans l'environnement.
Et le fait qu'il y ait moins d'insectes, est-ce que c'est forcément en relation avec la chute des populations de hérissons?
Pardon?
Oui, je disais, on constate également qu'il y a un effondrement des populations d'insectes. Il y a encore un article aujourd'hui dans Le Monde à ce sujet.
On constate de facto un effondrement de toute la population des insectivores, aussi bien les oiseaux insectivores que les chauves-souris, que les hérissons. Oui, forcément, quand il y a une partie de la chaîne alimentaire qui est impactée, ça impacte tout le reste de la chaîne alimentaire.
Donc aujourd'hui, la question, c'est un petit peu pour tous les amoureux de la nature ou les gens qui aiment bien observer le vivant, c'est comment se mettre au chevet de cette espèce qui est extrêmement mignonne. Hein. Il suffit d'aller sur Internet, regarder des photos de hérissons, c'est vraiment craquant.
Et en voie de disparition.
Alors non.
Oui, effectivement, en voie de disparition, oui.
Alors, comment on peut aider
agir.
Alors justement, vous qui recueillez des hérissons soit malades, soit blessés, ou soit, faméliques, comment tout un chacun peut aider, essayer de leur porter, si ce n'est secours, au moins attention?
Alors, on peut agir à plusieurs niveaux. On peut agir dans nos jardins en bannissant tous les pesticides, en n'utilisant plus de tulimas, en ne mettant plus de morora, en essayant de trouver d'autres façons de combattre tout ce qu'on appelle nuisible, en laissant des matériaux aux hérissons pour faire son nid, en favorisant la présence d'insectes, donc en laissant les feuilles mortes au sol, parce que ça crée un humus, une terre riche, et on voit bien, quand on soulève une feuille morte, qu'il y a plein de petites bestioles en dessous. Donc ça, c'est vraiment des gestes très simples, mais laisser l'état de feuilles à certains endroits dans le jardin, laisser les feuilles au sol quand c'est possible, laisser la nature, en fait, s'équilibrer et vivre. Donc favoriser la biodiversité. Il y a aussi un autre gros problème avec les hérissons, c'est la circulation. On a tous constaté que les hérissons se font écraser sur les routes.
Oh, c'est terrible.
Ils ont de plus en plus de mal à circuler en fait de jardin en jardin. Ça a besoin en fait d'un grand territoire de chasse. Un hérisson, ça parcourt 1 à 3 km par nuit. Pour chercher à manger, pour chercher des congénères, pour se reproduire. Donc voilà, c'est un animal petit, mais qui a besoin de beaucoup d'espace.
Alors ça vit combien de temps, justement, hérisson ? C'est quoi la longévité normale d'un hérisson s'il ne se fait pas écraser par une voiture ?
Alors, il pourrait vivre, en fait, juste une dizaine d'années, voire davantage, hein, puisqu'au Danemark, on a découvert un hérisson qui avait 16 ans. Donc ça peut vivre plus longtemps qu'on ne pense. Ceci dit, il y en a 1 sur 1000 qui arrivent à l'âge de 10 ans. Là, l'espérance de vie ces dernières années, elle est tombée à moins de 2 ans. Donc en fait, ils ont à peine le temps de se reproduire.
D'accord, parce qu'ils se reproduisent pas la première année.
Ils se reproduisent à l'âge d'un an. Après avoir passé le premier hiver, ils se reproduisent. Voilà. Sauf que les jeunes, quand c'est leur première maternité, elles sont un petit peu moins efficaces que quand elles ont plus d'expérience. Voilà. Donc là, en fait, elles ont le temps de faire une portée et puis elles meurent.
D'accord. Alors, Sarah Stahl, parlez-nous un petit peu de votre centre. Alors, on dit que c'est quoi ? C'est une clinique à hérissons ? C'est quoi ?
Ah oui, officiellement, ça s'appelle un centre de soins pour faune sauvage ou centre de sauvegarde de la faune sauvage. Donc, c'est un petit hôpital, entre guillemets, hein. Qui est déclaré en préfecture, est soumis à autorisation et qui soigne donc, dans notre cas, pour les petits typiques, nous soignons les hérissons uniquement.
D'accord, donc vous êtes spécialiste pour le hérisson. Alors, vous me disiez que c'était pas anodin à soigner un hérisson, c'est pas comme forcément nourrir une portée de chat qu'on a pu recueillir.
Ou un panda.
C'est complexe. Les pandas, ça, on laisse ça à d'autres. Dites-nous, d'un point de vue purement logistique, alors déjà combien de hérissons prenez-vous en charge à peu près chaque année ?
Alors, moi, dans mon centre de soins, je soigne entre 100 et 130 hérissons par an.
Alors, votre centre de soins, on est bien d'accord, il est à Orsay, à côté de la gare.
Oui.
Mais bon, par contre, vous ne nous demandez pas forcément d'aller vous voir si on n'a pas de hérisson à vous amener.
C'est un hôpital, hein, ouais. C'est un zoo.
Il y a des heures de visite.
C'est un lieu fermé au public.
D'accord. Donc ça prend beaucoup de temps, j'imagine.
Oui.
Alors vous me disiez l'autre fois, quand on a préparé l'émission, que vous aviez un grand blessé, un hérisson qui avait une fracture de la mâchoire. Et que il avait fallu lui faire mettre une prothèse. Alors si ce n'est une prothèse, au moins une attelle.
Non, c'est un cerclage.
Un cerclage.
En fait, il y a un fil qui rattache les morceaux de la mâchoire du bas pour maintenir les deux parties de la mâchoire serrées pour que l'os se ressoude.
Et alors, je crois qu'il s'appelait Kevin. Hein, vous m'avez dit, c'est ça ?
Oui, oui.
Alors donc il est hospitalisé depuis combien de temps, Kevin ?
Alors, ça fait 15 jours maintenant qu'il est au centre, hein, et puis ça se passe bien. Hein, il mange avec appétit. Il est arrivé, il pesait 500 grammes, il en fait maintenant 880. Donc voilà, il prend bien, mais il mange que de la bouillie pour le moment.
D'accord.
Parce qu'il ne peut pas croquer.
Bon, une bouillie d'insectes, j'imagine. Écoutez, on essaiera de donner des nouvelles de Kevin régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider votre association qui s'appelle Les Petits qui Piquent ? Alors, on a mis le lien sur la page Instagram de l'émission. Puis c'est assez facile à trouver sur Internet. Hein. Donc pour prendre en charge 120 hérissons par an, j'imagine il y a des pansements, il y a de la nourriture, il y a je ne sais trop quoi. Ça doit représenter aussi un budget, quoi.
Oui, c'est un énorme budget, hein, parce que les soins vétérinaires en particulier sont très coûteux. Les médicaments coûtent très cher. Et puis bon, effectivement, après, il y a la nourriture, il y a le matériel de soins. Oui, effectivement, c'est un budget.
Et alors, de quel ordre ? Allez, dites-nous tout, parce que on n'évite pas les sujets qui fâchent ici.
Alors c'est pas forcément évident parce que alors on est je suis pas un seul centre, hein, on est trois centres en
D'accord.
fait. D'accord. Les Pic, c'est trois centres de soins.
Donc un Orsay, et les deux
un
autres.
Un à Rueil-Malmaison.
Oui.
Et puis un à Saint-Maur-des-Fossés. Donc
D'accord.
on couvre un petit peu trois quatre départements parce que moi je m'occupe aussi un petit peu du 78 puisque j'en suis pas très loin.
Oui.
Donc voilà, on occupe un petit peu toute la région Île-de-France. Et donc pour donner une idée, l'année dernière, on a soigné 507 hérissons sur nos trois centres en 2024.
D'accord.
Donc 507, on imagine.
Alors il faut combien pour réussir à soigner tous ces hérissons?
Et bah, on a un budget qui voilà, était de 67 000.
Oui, quand même.
Bah, ouais, en gros, ouais, on tourne chaque année autour de 50 000. Hein,
D'accord.
45 000.
Ok.
45 000, on avait dedans.
Et il y a moyen de parrainer des hérissons? Il y a des actions, j'imagine qu'il faut aller sur votre site internet.
Alors, on peut adhérer à l'association hein, pour 15 euros. Vous pouvez devenir membre des Petits qui piquent.
D'accord.
Ça n'engage à rien. Ça donne lieu à un reçu fiscal. Et en même temps, ça permet, nous, de nous donner plus de poids auprès des pouvoirs publics, auprès des administrations, pour demander des subventions.
Oui,
ou pour,
oui c'est sûrement une méthode de soutien très, très efficace et ça a du sens, quoi. Demandez sa carte de hérisson.
Voilà, vous avez votre carte de membre des Petits qui piquent et vous participez. Voilà, c'est votre petite participation, votre goutte d'eau pour aider à la sauvegarde des hérissons.
Eh bien, Sarah, je vous propose de rester avec nous et puis pour écouter Thierry Dupeu, qui je pense que vous avez aussi beaucoup de choses à vous dire. Vous n'hésiterez pas à lui poser des questions, mais en attendant, je crois qu'on va.
Pause musicale.
On va avoir notre pause musicale qui a été. Vous allez voir, dûment choisi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson? C'est un hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse, reste. On le caressait pas, papa, papa. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait.
C'est un hérisson qui piquait, et qui voulait qu'on le caresse, reste. On le caressait pas, papa. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait.
Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson?
Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux?
Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui rendra heureux?
Moi, je ne vois que moi, il n'y a que moi dans ce livre-là. Moi, il n'y a que moi dans ce livre-là.
Non, le hérisson.
Pom, pom. musicale d'Émilie Joly de Philippe Châtel avec des paroles de Georges Brassens, au moins spécifiquement pour la chanson du Hérisson. Bah écoutez, c'était un immanquable, hein, on pouvait pas s'en passer. Alors maintenant, on accueille Thierry Dupeux. Comme je vous le disais, c'est un architecte. Alors je suis pas toujours en bonne entente avec les architectes. J'ai trouvé qu'ils ont un petit peu trop minéralisé nos villes. Et par contre, vous allez voir, Thierry, alors lui, c'est carrément le contre-exemple du minéralisateur, de l'urbaniste bétonneur. Imaginez-vous, il a quand même réussi, depuis 35 ans qu'il fait ce travail, donc depuis des temps presque immémoriaux de l'architecture, à convaincre des maires, donc des maîtres d'ouvrage et des promoteurs immobiliers à intégrer des nichoirs, des passages à hérissons ou recréer des espaces vivants dans des actes. C'est pas pour une fois c'est pas dans des petits réduits de bien-pensants ou de gens à l'aise. Thierry, tu as réussi à faire convaincre des projets presque publics d'intégrer de la nature en ville. C'est formidable, ça.
Ah bah oui, c'est formidable. C'est surtout passionnant parce que ça tient à une passion personnelle, des envies, et où l'architecte rejoint le citoyen qui se dit que la vie des humains en ville est toujours plus belle et plus joyeuse avec du vivant non humain, c'est-à-dire les merles dans les parcs, les moineaux qui pioupioutent au balcon, et puis des jardins et des parcs foisonnants où tout cet ensemble peut être conçu en fait via le paysage comme autant d'occasions de faire du biotope. Donc quand moi je bétonne, ça c'est vrai, ça n'échappe pas à ça, on construit aussi avec du bois et de la paille. Mais l'anthropisme, il est toujours là quand on construit, ça c'est clair et net. Mais on peut aussi voir l'occasion de construire un bâtiment comme un potentiel de faire 5 façades, si on dit que c'est comme un sucre, pour revenir sur les colibés qui nous sont envoyés. C'est autant d'occasions de se dire que du point de vue du martinet, du moineau, ça sera des occasions de voir ça comme une falaise et d'avoir les trous. Et nous, on intègre, on anticipe les nichoirs, on pense les bardages pour que les chauves-souris puissent y trouver leur gîte, leur maternité, voire même un hivernage. Bon, toutes ces choses-là sont hyper passionnantes, intéressantes. Et ça va jusqu'au jardin, la palette végétale. Et là, le hérisson, on essaye de faire en sorte de lui donner toutes les conditions de son installation et de son bon développement. Parce que le hérisson peut aimer justement de déambuler dans nos villes, dans nos jardins, dans les lotissements. Il faut par contre savoir anticiper là-dessus et lui donner les conditions nécessaires et penser la ville, les haies, les jardins sous l'angle de cette joyeuse bébête qui ne demande qu'à nous rejoindre et vivre à nos côtés. Voilà.
Donc le hérisson n'est pas fait pour avoir peur de l'homme, il va pas nous fuir
Alors, il a cette chance d'être préalablement nocturne. Donc là, généralement, nous, on est plutôt diurne. Donc, on arrive à avoir des vies côte à côte sans se connaître.
Sans se marcher sur les pieds.
Quoi. Voilà, exactement. Et c'est en même temps un peu dommage parce que du coup, on peut ne jamais se rendre compte qu'il était là ou il aurait pu être là, plus exactement, et qu'on lui a fermé la porte. Donc, quand on met un grillage bien fermé tout autour de son jardin, eh bien, on lui ferme la porte d'une certaine manière, mais on lui ferme aussi un potentiel de garde-manger. Et donc, s'il était plus diurne, peut-être qu'on aurait déjà mieux saisi ses soucis, la disparition qui est en marche. Mais en même temps, ça lui donne son espace de développement et de liberté. Donc, il y a moins de voitures aussi, il faut y penser, ça. Donc, peut-être moins de risques de collision.
Et alors, justement, le hérisson a besoin de passer de jardin en jardin et souvent par un peu un réflexe presque conditionné dans les zones pavillonnaires, on va essayer de clore presque hermétiquement les jardins alors qu'il pourrait être bienveillant que de lui offrir un passage.
Ah, voilà, c'est un petit peu le nerf de la guerre et puis de la petite bataille que moi je mène donc depuis la fin du siècle dernier, en effet. Donc, en fait, quand on fait un lotissement, un écoquartier, un morceau de ville, on a affaire à un aménageur qui, lui, bon, ne va pas penser aux hérissons. Donc, si personne ne le fait, c'est vrai qu'on passera à côté de belles occasions. Nous, notre rôle au sein de l'agence, c'est
agence qui s'appelle Rhizome.
Agence Rhizome, voilà, nous sommes installés sur Rennes. Et si on s'appelle Rhizome, c'est qu'on a forcément une attention particulière au paysage, quoi. Et donc, la biodiversité. Un aménageur a besoin d'à peu près 70% de ses cibles, c'est-à-dire 70% d'un territoire qu'il va le revendre à des maisons individuelles ou à des espaces pour des collectifs pour construire. Le reste, ce sont des routes et quelques parcs. Donc imaginez qu'il ne reste pas grand-chose aux hérissons, 70%, si les jardins sont tous clos. Donc le travail qu'on fait, nous, c'est de persuader les gens de ne pas clore, ça c'est très difficile, ou alors de les clore de telle sorte que ce soit compatible au passage de hérissons. Alors soit c'est des grillages assez larges, comme le grillage à moutons, à condition de mettre les mailles carrées jusqu'en bas, parce que si ce sont les mailles qui sont trapézoïdales en partie basse, il va se coincer dedans et c'est le pire des pièges mortels. Donc il faut vraiment des mailles carrées qui soient en partie basse.
Mais bon, ça allait se passer les chats, ça allait se passer les chiens.
Ah oui, c'est ça, c'est souvent ce qui peut nous être opposé. Mais au moins alors le chat, il passe partout, quoi qu'il arrive. De toute façon, il est inarrêtable. Mais les petits chiens, par contre, peuvent s'échapper. Alors si seuls les jardins contenant des petits chiens étaient clos, ça ferait pas un gros tort aux hérissons, c'est vraiment par réflexe qu'on le fait. Alors, on propose également des passages à hérissons. Sont des,
alors, des on va vous le montrer à l'antenne,
chers amis. On va le mimer.
Parce que bon, je vais prendre la parole quelques secondes. Thierry, t'as inventé un passage à hérissons et tu me l'as montré tout à l'heure. Mais il est magnifique. Tiens, Ben, si tu veux le prendre là dans le carton, c'est une belle plaque d'inox, bien travaillée, découpée au laser, qui est aujourd'hui diffusée par la LPO, mais c'est toi qui l'as inventée.
Ouais, voilà, on l'a dessinée de telle sorte que ce soit d'abord un statut de décoration de jardin pour que le meilleur geste qu'il puisse y avoir, c'est d'embellir le jardin en l'ouvrant pour le haut hérisson. Donc, il ne fallait pas que ce soit un objet purement technique. Il a une silhouette de hérisson stylisée, on va dire compatible pour tous. On comprend suite.
C'est une jolie petite œuvre d'art contemporain.
C'est ça, une silhouette très empathique du hérisson parce qu'il a plein. Il est très dans l'empathie collective et c'est ça qui m'intéresse. Donc je m'appuie sur le hérisson en tant qu'animal parapluie pour ouvrir les jardins. Sous-entendu que, puisque c'est un animal parapluie, en créant tout le biotope qu'il va apprécier, on va en fait faire venir à lui ou à nous tout un ensemble d'insectes et d'autres petits animaux. Et donc on va, en lui créant les conditions de l'installation, créer les conditions d'installation de tout un ensemble d'espèces d'insectes et par là même aussi d'oiseaux et de micro-mammifères et toutes ces petites faunes auxquelles on ne va pas penser, flore également, qui via le hérisson prendront place et qui vont joyeusement
installer. Si on aide le hérisson, on va aider tout son cortège d'espèces.
Voilà.
Et donc, c'est vrai que ça peut être un message assez... il faut développer de la bienveillance à l'égard de la nature, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est sûrement audible par les enfants. Écoutez, Sarah, vous êtes toujours en ligne ?
Tout à fait.
Alors, n'hésitez surtout pas à poser des questions à Thierry.
Pour l'instant, je suis absolument d'accord avec lui. C'est fondamental de créer des passages pour le hérisson, pour qu'il puisse passer de jardin en jardin. Ça, c'est vraiment fondamental.
Alors bon, on meurt d'impatience de vous le montrer, le passage à hérisson, parce qu'il est très sympa, mais c'est vrai que c'est qu'on est quand même à la radio, donc il faudra qu'on trouve une solution. Avec les réseaux sociaux, on va bien trouver un moyen de montrer Thierry et son passage à hérisson. Donc le voilà, il nous le déballe, c'est magnifique.
Ben va nous le commenter puisqu'il le découvre en direct. Donc c'est une silhouette qui fait en gros 50 cm de long, avec un trou à l'intérieur de 15 à 20 cm. L'objectif, c'est de le clipser sur des grillages pour pouvoir faire un trou sans que le grillage se délite. Donc, ça va pérenniser le trou à l'intérieur sans abîmer le grillage.
Et l'astuce de Thierry, voilà, c'est d'utiliser des silhouettes de piquants de hérissons qu'on peut rabattre sur les fils du grillage, de manière à ce que ça s'accroche. Voilà. Et puis ensuite, ça maintient le grillage et on peut couper une ou deux mailles sans
qu'il se délite. Et c'est, voilà, c'est compatible avec tout type de modèle de grillage. Et le plus complexe, le plus couramment posé, parce que le moins cher, c'est le grillage simple torsion. C'est celui qui s'abîme le plus vite dès qu'on coupe une maille dedans. Donc celui-là, la silhouette hérisson est conçue précisément pour ce grillage. Et du coup, se pose aussi sur tous les autres grillages plus simples. Mais voilà, donc la LPO a eu vent de cette silhouette qui a été beaucoup diffusée comme ça, bouche à oreille, pendant un bon bout de temps. Elle a été dessinée en 2018, quelque chose comme ça. Et 2008, pardon. Et pour justement un programme d'éco-quartier, on avait dit aux promoteurs, eh bien, à chaque maison individuelle, on offre une silhouette de hérisson pour inciter les gens à ouvrir le jardin. Ouais. Voilà, chose qui a été faite. Et puis maintenant, vous le trouvez dans le catalogue de la LPO.
Voilà, ben, je vais vous faire entendre le son du passage à hérisson.
Voilà, donc... C'est une tôle en inox, donc recyclable, qui ne va pas rouiller, qui va rester pérenne.
Non, mais c'est vrai que moi qui n'ai même pas de jardin, ça me donne envie de le mettre dans ma cour. Mais bon, je crois que...
Oui, c'est arrivé. Hein. Il y a des personnes qui le laissent en déco toute simple. Voilà, ce n'est pas l'objectif, mais pourquoi pas. Et il y a surtout des gens qui l'ont posé en pur passage à hérisson, qui sont venus me voir pour me dire « on me l'a volé ». Donc je me suis dit « tant mieux, c'est que ça joue son rôle de déco de jardin ». Et maintenant, il faut remettre un autre. Quoi. Et...
Mais bon, voilà. Vous connaissiez le passage à hérisson, Sarah ?
Oui, d'ailleurs, j'en ai un exemplaire dans mon jardin.
Ah, parfait. Voilà, c'est la consécration.
Alors, je crois que tous les amoureux des hérissons ont investi dans cette petite déco de jardin bien pratique. Effectivement, pour fixer sur les grillages, c'est absolument fantastique.
Bon, il faut que ce soit connu. Et puis, peut-être qu'on pourrait commencer aussi par en parler à nos municipalités. Moi, j'ai ma sœur qui est conseillère municipale. Je crois qu'elle va avoir droit à son passage à hérisson. Il va falloir qu'elle assure la promotion au prochain conseil municipal. Hein. On va faire du lobby.
On pourrait faire un réseau de toutes les communes qui sont branchés sur les hérissons.
Voilà, c'est ça, la manif, oui. Manif pro hérisson.
Alors c'est arrivé, la ville de Rennes nous en a commandé 100 qu'ils ont distribués à tout un réseau de jardiniers volontaires sur Rennes. Donc je ne sais pas combien ils en ont distribué au final, mais l'objectif était bien là, la démarche avait été engagée là-dessus. Quoi. Donc c'est justement sous l'angle de cette déco de jardin, c'est tout un geste qui va derrière. Et qui n'est pas neutre. Alors bien sûr, il faut aller au-delà du passage. Il faut bien expliquer aux gens qu'on ne met pas de granulés anti-limaces, qu'on laisse les feuilles et qu'il faut savoir installer le plus de fouillis possible dans un coin du jardin. Alors moi, mon jardin, c'est un fouillis presque partout, mais un fouillis joyeux que tout le monde peut parcourir.
Oui, mais on n'est pas obligé, c'est pas réservé au bord des ligues du jardin. Quoi. On peut être aussi un jardinier un peu cartésien et avoir quand même son...
Tout à fait. L'objectif, il est là, c'est de se dire, tiens, et si dans un coin du jardin ou dans une bande du jardin, on mettait ce fouillis joyeux, là, compatible hérisson. Mais le reste, on l'entretient comme on le souhaite. Eh bien, on se rend compte au bout d'un certain temps que le fameux fouillis auquel on n'avait pas pensé au début devient aussi intéressant que le reste du jardin. Et ceux qui l'ont tenté, eh bien, au fil des ans, ont laissé grandir cet espace de biodiversité où la nature reprend un petit peu ses droits, un peu plus qu'ailleurs en tous les cas. Et c'est suffisant pour qu'il y ait des vers, des cloportes et tout ce que le hérisson va apprécier de rechercher. On incite aussi les gens à laisser une petite gamelle d'eau, une gamelle lourde, quoi. Bien sûr, ce dont peut mourir le hérisson, c'est de soif. Et ça, on n'y pense pas, quoi. On pense toujours à nourriture. Il faut éviter de le nourrir, de toute façon. Il doit rester un animal sauvage et libre. Mais le petit coup de pouce de la boisson est bienvenu. Alors, mettez des bains d'oiseaux, comme ça profitera vraiment à tout le monde, les oiseaux.
Alors, qu'est-ce que c'est un bain d'oiseaux ?
C'est une gamelle, comme une jatte, si possible une jatte lourde, pour que ça ne lui renverse pas sur sa tête quand il s'appuiera lourdement dessus. Mais oui, c'est ça, c'est on pourrait dire comme une gamelle, un gratin pour le four, par exemple, très bien, terre cuite. Et on met une pierre au milieu, quelques centimètres d'eau, et c'est génial pour tout le monde, quoi.
Voilà, bah donc ça, c'est des choses tout à fait faciles à faire. Alors, bon, par contre, des hérissons au balcon, ça va pas le faire, ça?
Non, on vaut mieux éviter. C'est clair, c'est reste vraiment... ça peut grimper quelques murets, quand même. Ça sait se laisser tomber en se mettant en boule, c'est assez étonnant. Mais non, c'est pas un grimpeur au balcon, ça, c'est clair et net. On n'aura jamais,
bon, jamais cette chance. D'autres animaux à accueillir sur les balcons. Sarah, est-ce que vous auriez des conseils, des astuces, je ne sais trop quoi, à nous transmettre?
Ben, moi, je vais juste résumer, hein. L'essentiel, c'est de laisser effectivement de la biodiversité s'installer dans nos jardins. Donc laisser les feuilles mortes au sol un petit peu, laisser des petits coins sauvages, faire des passages, c'est essentiel aussi. Ça leur évitera d'utiliser la route et de se faire écraser. Et puis, l'eau, c'est vraiment aussi essentiel et ça va profiter à toute la petite faune. Parce qu'on a de moins en moins de points d'eau, il y a de moins en moins de mares, d'endroits où les animaux sauvages peuvent trouver à boire. Et donc, l'eau, c'est essentiel 365 jours par an. On y pense en été, en période de canicule, mais c'est un problème aussi en hiver. On n'y pense pas assez.
D'accord.
Donc, voilà, ça, c'est... Et alors, je préciserai simplement, jamais de pain et jamais de lait. Il n'y a aucun animal dans la nature qui mange du pain et qui boit du lait, à part les veaux, qui boivent le lait de leur mère. Mais voilà, les hérissons ne supportent absolument pas le lait, donc par pitié, jamais de lait pour les hérissons.
Ah bah parce qu'effectivement, ça fait partie de cette espèce de légende où, en croyant bien faire,
on achève le hérisson.
D'accord. Ouais, c'est le pire torboyau qui puisse exister, de toute façon, en règle générale, pour tous les animaux, même un chat peut être très malade avec le lait. C'est un faux réflexe, effectivement. On est le seul mammifère à boire du lait toute sa vie. Bon, donc, c'est quelque chose de contre-nature. Hein. Faut se le dire comme ça, quoi.
Mm-hmm. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, on va continuer gentiment dans les arènes de l'écologie avec Sarah Stahl et Thierry Dupeu, donc deux amoureux des hérissons et puis surtout deux bienfaiteurs des hérissons. Mais peut-être qu'on... Ben, tu voulais dire ?
Moi, je voudrais savoir quelles sont les associations qui sont vraiment mobilisées sur la défense de cet animal, qui mérite effectivement d'avoir une certaine publicité aussi grande que...
Alors moi j'ai vu la LPO, ouais. mais Sarah...
Il y a peut-être d'autres...
Il y a déjà les petits qui piquent. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres
alors,
associations?
Oui, en fait,
est-ce qu'il y a un réseau des...
Je veux tout savoir.
En fait, il y a plusieurs niveaux d'aide. Hein. Il y a les centres de soins qui, eux, sont dans, vraiment, comme leur nom l'indique, dans le soin, aux animaux blessés, malades, orphelins.
Vous êtes la Croix-Rouge des hérissons, vous.
Pardon ?
Vous êtes la Croix-Rouge des hérissons.
Voilà. Et on fait aussi de la sensibilisation, parce que sans sensibilisation et sans information, bah les soins, ça ne suffira jamais. Après, plus largement, il y a des associations, effectivement, comme la LPO, comme France Nature Environnement, qui œuvrent beaucoup en faisant de l'information et de la sensibilisation. Et puis, il y a des associations comme des initiatives donc comme celle de Thierry ou comme celle d'une autre association qui s'appelle, enfin d'un programme qui s'appelle Pique en Ville et qui se développe beaucoup en Normandie, qui a commencé dans la ville de Caen et qui est aussi basée sur cette création de passages à hérissons dans les jardins et dans les espaces verts de façon à relier en fait tous ces espaces entre eux. Donc en fait voilà, à tous ces niveaux-là, on peut, ce sont des moyens d'aider le hérisson, des associations diverses qui aident le hérisson.
Et alors justement, puisque on connaît tous les deux la vallée de Chevreuse, est-ce que du côté d'Orsay, de Palaiseau, de Gif-sur-Yvette, où effectivement il y a des biotopes tout à fait adaptés aux hérissons, est-ce qu'il y a une action, est-ce que les municipalités vont parler du hérisson à nos enfants? C'est vrai que on peut imaginer que, vu le côté la bouille sympathique de la bestiole, que les maternelles pourraient être, et puis les primaires pourraient être tout à fait, ou attentifs à cet animal, et puis tout ce que ça veut dire autour, donc cette fameuse notion d'espèce ombrelle.
Oui. L'espèce parapluie.
Oui, parapluie.
Oui, oui. Ah, bon, effectivement, oui, on dit
toujours en même parapluie. Temps, pourquoi pas.
Le parapluie, c'est le ouais. même. Il y a des initiatives de plus en plus nombreuses. Hein. En Essonne, je ne suis pas la seule association à m'occuper de sensibilisation. Faune Essonne, par exemple, le fait aussi, intervient dans les écoles. Moi, j'interviens à la demande d'associations, de médiathèques, pour faire des conférences sur le hérisson, qui sont accessibles à partir de 4 ans, hein, jusqu'à pas d'âge. On fait de la sensibilisation auprès des jardiniers. Oui, il y a une préoccupation. Les mairies nous demandent de plus en plus de faire des interventions de sensibilisation auprès du grand public.
Donc, est-ce qu'on peut le considérer comme une espèce emblématique, je dirais, de la cohabitation homme-nature ?
Oui. Oui, on peut dire ça, parce que c'est vraiment un petit animal avec un capital sympathie énorme. Effectivement, comme vous avez dit, c'est un animal qui plaît beaucoup aux enfants. Ça a une bonne bouille et c'est une porte d'entrée qui est vraiment très intéressante pour sensibiliser à la biodiversité et à la protection de la biodiversité dans son ensemble.
Thierry voulait ajouter quelque chose.
Ben, ça allait exactement dans ce sens. C'est-à-dire, pour être très désagréable avec Ben, je vais lui répondre à sa question ciblée sur le hérisson, qu'en fait il faut penser transversal, donc effectivement c'est bien de penser au hérisson, ça c'est certain, mais on va penser globalement biodiversité pour que le hérisson y trouve pleinement sa place. Et le hérisson est un petit peu notre cheval de Troie pour intégrer pleinement la biodiversité qui profitera à tous, c'est l'effet justement animal parapluie. Et donc, qu'on s'attache spécifiquement au hérisson, c'est bien quand on fait du soin, Sarah, tu ne peux pas faire autrement. Mais quand on est urbaniste et architecte, il faut penser global et pas s'arrêter au hérisson. Il doit nous servir comme emblème et les conditions qu'on va remplir pour l'intégration pleine et entière du hérisson va être profitable à tout le reste de la microfaune et flore. Et c'est bien comme ça qu'il faut le voir. Donc il faut vraiment penser global, biodiversité et donner les conditions de son installation. La chance qu'on a, c'est qu'il aime bien se balader au pied des haies. Lui, la forêt, c'est pas du tout son biotope. C'est vraiment le bocage, suivre les haies, les prairies, voilà, toutes ces choses. Et de son point de vue de hérisson, le lotissement ressemble vraiment à ce qu'il apprécie de pratiquer en pleine nature. Moins la banque de nourriture, justement. Les pelouses ne sont pas assez ouvertes au développement des vers et toutes ces choses. Donc, ouais, faut vraiment penser global, biodiversité, et le hérisson trouvera sa place. Mais... Et en plus, bien sûr, ouverture des jardins, comme on le disait tout
d'accord,
à l'heure.
D'accord, mais bon, d'ailleurs, je suis en train de me faire cette réflexion. C'est sûrement pas un hasard si le hérisson est l'emblème stylisé de France Nature Environnement.
Oui, je pense, parce qu'il a une grosse empathie. Il n'y a pas de compter les gens contre le hérisson.
Il y a quelqu'un qui l'a vu avant moi, manifestement. Mais c'est vraiment très emblématique comme bestiole et qui peut dire beaucoup de choses.
Comme le panda avec le WWF, sauf qu'il est plus à portée de main. Il est dans, justement, c'est ça qu'il y a de beau, c'est que ça peut devenir un totem qui n'est pas un totem de l'exotique, mais au contraire de la biodiversité à notre porte. Quoi, voilà. Donc c'est l'intérêt de la chose, c'est au lieu de penser biodiversité, d'avoir un totem, les tigres, les lions, les éléphants, non, c'est une bête à la portée de chez nous, de notre porte, donc c'est beaucoup plus implicatif. Quoi, voilà. Ça, c'est important.
Tout à fait.
Bon, alors justement, je voulais, j'imagine qu'on a suscité des vocations énormes et nombreuses sur le hérisson, beaucoup voudront en savoir plus. Alors, j'ai essayé de voir, avec l'aide de Sarah, je confie toutes les coulisses de l'émission, qui m'a donné les pistes de bibliographie. Donc, il y a Philippe Jourde qui a publié récemment « Le hérisson d'Europe », Philippe Jourde qui est un spécialiste membre de la LPO. Et puis, sinon, il y a la référence, si ce n'est historique, au moins ancienne, celle qui fait toujours référence, de Pat Morris et Guy Berthoud, qui vont publier La vie du hérisson en 1992. Oui, alors là, je suis en train de m'apercevoir qu'on a carrément oublié les questions de notre de Brume qui voulait donc en tant que chercheuse. Eh ben, vas-y, envoyez-nous les questions de Brume. On va essayer de répondre au moins aux premières.
Bonjour Thierry Dupeux, je suis Brume Delaunay, fraîchement diplômée en urbanisme durable et actuellement ingénieure de recherche à l'Université de Lille. Et je me demandais, avec votre expérience d'architecte engagée sur les questions environnementales, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la manière dont la nature et la biodiversité sont prises en compte par les acteurs de la fabrique de la ville ? Et selon vous, quelles sont les principales limites qui freinent encore une intégration plus ambitieuse et systématique de ces enjeux ?
Ah, c'est une très belle question parce que c'est tout mon engagement depuis 30 ans et au début je me faisais taper sur les doigts parce que je me mêlais d'une question qui n'aurait pas dû me regarder. Qu'est-ce que fait un architecte et un urbaniste à s'occuper de ces trucs-là ? Je me suis même fait insulter parfois. Alors je travaillais, on va dire, en cachette et je faisais du mieux que je pouvais et au cas par cas. Et aujourd'hui, il s'avère que la demande, elle est vraie, elle est sincère. Alors, elle est un peu marketing parfois, malgré tout, mais il y a une vraie demande. Alors donc, on me fait confiance en plus parce qu'il n'y a pas eu de dégâts dans les bâtiments ni dans les jardins parce qu'il y a eu de la biodiversité. Et on se rend compte que la ville, eh bien, manque de, on va dire, je vais faire un néologisme, de joyeuseté quand disparaît la faune et la flore. Donc aujourd'hui, non, il y a une vraie attention positive là-dessus. Et en tous les cas, plus personne n'est surpris quand j'aborde le sujet. Ça, c'est clair et net, quoi.
Donc t'es plus le méchant indien
Non, je suis plus le bobo de service. Ça reste maintenant une vraie donnée technique prise au sérieux, quoi.
D'accord. Mais bon, après, j'imagine que nos interlocuteurs sont souvent... Ils ne savent pas trop comment saisir le sujet, ils sont un petit peu comme une poule devant un cure-dent, ils ne savent pas comment intégrer la question. Et c'est là, effectivement, il faut aider à...
La poule et le cure-dent, oui, effectivement, il y a le mode d'emploi qui manque, et puis le retour d'expérience maintenant pour nos réalisations, il est là. Donc on nous fait confiance là-dessus. Et malheureusement, la profession ne s'est pas du tout ou trop peu emparée du sujet. Alors ce qu'on fait parfois, c'est dans le dos ou alors en collaboration avec un confrère ou une consoeur qui sont réticents. Des maîtres d'ouvrage nous demandent de faire le job à leur place en complément de l'avancement d'un projet. Mais ce qui est le mieux, c'est faire...
C'est manifestement un long chemin. Et c'est vrai que moi, j'étais très ravi de te rencontrer parce que tu t'as cheminé sur ces questions-là depuis pratiquement aussi longtemps que je fais du journalisme environnement. et t'es arrivé à des résultats. Et ça me rassure. Et donc, c'est quand même un beau message d'espoir. Donc, écoutez, comme d'habitude, l'heure tourne, on va arriver à la fin de l'émission, mais on va poursuivre, Thierry, ces conversations et on promet aux éditeurs d'une manière ou d'une autre, avec Sarah Stahl et puis d'autres, de revenir sur cette place de la nature en ville. Et c'est vraiment pas... faut arrêter avec cette vision antagoniste. Il y a vraiment moyen de réconcilier tout le monde. Donc, réconcilier. Écoutez, on va remercier Armand et Renaud qui, à la technique, nous ont parfaitement aidés à mener à bien cette émission, à découvrir ces thèmes tout à fait sympas. Et puis, la vie mystérieuse du hérisson, ça valait quand même... Son pesant de cacahuètes. Bon, on va écouter.
Et l'agence Rhizome.
Oui.
Ce serait bien de la citer.
Eh ben, n'hésite pas, Ben. Donc, effectivement, l'agence Rhizome à Rennes, qui, donc l'agence de Thierry, si vous êtes maire, si vous êtes promoteur, si vous avez envie de construire quelque chose en grand, eh bien, faites appel à l'agence Rhizome et à Thierry Dupeux, et vous pourrez. Mettre de la belle vie, de la belle nature dans les nouvelles constructions. Mais bon, on reparlera des sujets d'artificialisation des sols, il y a des aspects aussi plus techniques, on y reviendra. Mais en tout cas, un grand merci. À la technique, et puis on vous souhaite une belle semaine, et puis comme l'expression consacrée, à la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.